Chapitre 7.
Winston s'était réveillé les yeux remplis de larmes. Julia, à moitié endormie, roula contre lui en murmurant quelque chose comme « Que se passe-t-il ? »
« J'ai fait un rêve. »
commença-t-il avant de s'arrêter. C'était trop complexe pour qu'il pût mettre des mots dessus. Il y avait le rêve en lui-même, et il y avait un souvenir qui était lié au rêve et qui s'était glissé dans son esprit quelques secondes après son réveil. Il se rallongea, les yeux fermés, toujours plongé dans l'atmosphère du rêve. C'était un rêve vaste et lumineux, dans lequel toute sa vie semblait s'étendre devant lui comme le paysage d'une soirée d'été après la pluie. Cela s'était passé dans le presse-papier de verre, mais la surface de verre était le dôme du ciel, et à l'intérieur du dôme, tout était plongé dans une lumière claire et douce, à travers laquelle on pouvait voir à des distances inimaginables. Dans le rêve, il y avait aussi, à vrai dire cela constituait l'essentiel du rêve, un geste du bras fait par sa mère et reproduit 30 ans plus tard par la femme juive qu'il avait vue dans le film d'actualité afin d'essayer de protéger des balles le petit garçon avant que l'hélicoptère ne les mette tous deux en pièces.
« Sais-tu,
dit-il,
que jusqu'à ce moment, je pensais avoir assassiné ma mère. »«
Pourquoi l'as-tu assassinée ? » dit Julia presque endormie.
Je ne l'ai pas assassiné, pas physiquement.
Dans le rêve, il s'était souvenu de la dernière vision qu'il avait eue de sa mère, et en quelques instants après son réveil, tout l'ensemble de petits événements qui y étaient associés lui était revenu. C'était un souvenir qui avait sans doute été volontairement déplacé en dehors du champ de sa conscience durant de longues années. Il n'était pas certain de la date, mais il ne pouvait pas avoir moins de 10 ans, peut-être 12. Lorsque c'était arrivé. Son père avait disparu peu avant. Combien de temps avant, il ne s'en souvenait pas. Il se souvenait mieux des circonstances difficiles et agitées de l'époque, les paniques régulières lors des raids aériens, et les abris dans les stations de métro, les tas de décombres partout, les proclamations incompréhensibles placardées à tous les coins de rue, les gangs de jeunes tous vêtus de chemises de la même couleur, les files d'attente énormes devant les boulangeries, les tirs de mitrailleuses intermittents dans le lointain, et par-dessus tout le fait qu'il n'y avait jamais suffisamment à manger. Il se souvenait de longs après-midi passés avec d'autres garçons à fouiller des poubelles rondes et des tas d'ordures, ramassant des morceaux de feuilles de choux, des pelures de pommes de terre, parfois même des morceaux de croûte de pain rassis dont il grattait précautionneusement les cendres. Il se souvenait aussi avoir attendu sur une certaine route le passage de camions dont on savait qu'ils transportaient de la nourriture pour les bestiaux et qui perdaient parfois quelques fragments de tourteaux de tournesol lorsqu'ils tressautaient aux endroits où la route était la plus mauvaise. Quand son père disparut, sa mère ne montra ni surprise ni colère violente, mais un changement soudain se fit en elle. Elle semblait être devenue complètement apathique. Il était évident, même pour Winston, qu'elle attendait une chose qu'elle savait devoir se produire. Elle faisait tout ce qui était nécessaire. Elle cuisinait, nettoyait, raccommodait, faisait le lit, lavait le sol, dépoussiérait le manteau de la cheminée, mais toujours très lentement et en évitant étrangement tout mouvement superflu, comme un mannequin artificiel qui se mettrait à bouger de sa propre volonté. Son grand corps bien proportionné semblait toujours revenir naturellement à l'immobilité. Parfois, elle pouvait rester assise dans son lit, sans bouger, pendant des heures, allaitant la jeune sœur de Winston, une petite fille souffreteuse et très silencieuse de 2 ou 3 ans, dont le visage semblait simiesque tant elle était maigre. Très rarement, elle prenait Winston dans ses bras et le serrait très fort pendant un long moment, sans dire un mot. Il se rendait compte, en dépit de son jeune âge et de son égoïsme, que c'était lié à cet événement qui était sur le point d'arriver, et dont on ne parlait jamais. Il se souvenait de la chambre dans laquelle il vivait, une pièce sombre qui sentait le renfermer et qui semblait déjà à moitié remplie avec le lit à la courte pointe blanche. Il y avait un fourneau à gaz sur le rebord de la cheminée et une étagère sur laquelle était rangée la nourriture, et sur le palier au dehors il y avait un évier en faïence brune commun à plusieurs chambres. Il se souvenait du corps sculptural de sa mère penchée sur le fourneau, occupée à remuer quelque chose dans une casserole. Mais par-dessus tout, il se souvenait de sa faim continuelle et des luttes féroces et sordides au moment des repas. Il demandait à sa mère, avec acrimonie, encore et toujours, pourquoi il n'y avait pas plus à manger. Il criait et se déchaînait contre elle. Il se souvenait même du ton de sa voix, qui commençait à muer prématurément et explosait parfois d'une façon très particulière. Ou alors il tentait une approche pleurnicheuse afin d'obtenir plus que sa part. Elle tenait pour acquis que lui, le garçon, devait avoir droit à la plus grosse portion. Mais quelque quantité qu'elle lui donna, il en voulait toujours plus. Lors de chaque repas, elle le suppliait de ne pas être égoïste et de se souvenir que sa petite sœur était malade et avait aussi besoin de nourriture. Mais cela était inutile. Il pleurait de rage quand sa mère arrêtait de le servir. Il essayait de s'emparer de la casserole et de la cuillère. Il chipait des morceaux dans l'assiette de sa sœur. Il savait qu'il les affamait toutes deux, mais il ne pouvait pas s'en empêcher. Il trouvait même qu'il était en droit de le faire. La faim qui dévorait ses entrailles semblait lui donner raison. Entre les repas, si sa mère n'était pas vigilante, il ne cessait de chaparder dans la pauvre réserve de nourriture sur l'étagère. Un jour, une ration de chocolat fut distribuée. Il n'y avait pas eu de distribution depuis des semaines ou des mois. Il se souvenait très clairement du précieux petit morceau de chocolat. Une tablette de 2 onces, on parlait encore d'once en ce temps-là, qui se trouvait posée sur la table entre 3. Il était évident qu'elle devait être partagée en 3 parts égales. Soudain, comme s'il écoutait quelqu'un d'autre parler, Winston s'entendit réclamer d'une grosse voix retentissante la totalité de la tablette. Sa mère lui dit de ne pas être vorace. Il y eut une longue et pénible discussion, avec des cris, des gémissements, des larmes, des reproches, des tractations. Sa toute petite sœur, agrippée des 2 mains à sa mère, tout comme un bébé singe, restait assise à le regarder par-dessus les épaules de celle-ci, avec de grands yeux implorants. Pour finir, sa mère cassa la tablette et en donna les 3 quarts à Winston, donnant le dernier quart à sa sœur. La petite fille s'empara du morceau et le regarda d'un air maussade, ne sachant peut-être même pas ce que c'était. Winston la regarda pendant un moment. Puis, d'une rapide détente, il arracha le morceau de chocolat des mains de sa sœur et s'enfuit en direction de la porte. « Winston, Winston !» l'appela sa mère. « Reviens, rends à ta sœur son chocolat !» Il s'arrêta, mais ne revint pas. Les yeux inquiets de sa mère étaient fixés sur son visage. Même maintenant, quand il y repensait, il ne savait toujours pas quelle était cette chose qui était sur le point d'arriver. Sa sœur, consciente d'avoir été spoliée, avait poussé un faible gémissement. Sa mère l'entoura de ses bras et pressa son visage contre son sein. Quelque chose dans ce geste lui disait que sa sœur était mourante. Il se retourna et dévala les escaliers, tandis que le chocolat devenait collant dans sa main. Il ne revit jamais sa mère. Après avoir dévoré le chocolat, il se sentit un peu honteux et erra dans les rues pendant quelques heures, jusqu'à ce que la faim le ramène à la maison. Quand il rentra, sa mère avait disparu. Cela commençait déjà à devenir normal à cette époque. Rien n'avait disparu de la pièce, à part sa mère et sa sœur. Elle n'avait pris aucun vêtement, pas même le manteau de sa mère. À partir de ce jour, il ne sut jamais avec une absolue certitude que sa mère était morte. Il était tout à fait possible qu'elle eût été envoyée dans un camp de travail forcé. Quant à sa sœur, elle pouvait avoir été envoyée dans une de ces colonies pour enfants sans foyer. Des centres de réclamation, comme on disait, qui s'étaient multipliés suite à la guerre civile. Ou peut-être avait-elle été envoyée dans un camp de travail avec sa mère, ou tout simplement abandonnée, ici ou là, pour y mourir. Le rêve était toujours net dans l'esprit de Winston, particulièrement le geste du bras, enveloppant et protecteur, dans lequel toute la signification du rêve semblait contenue. Son esprit remonta à un autre rêve, 2 mois plus tôt. Tout comme sa mère s'était tenue assise sur la courte pointe usée du lit, son enfant cramponné à elle, elle était restée pareillement assise dans le navire qui sombrait, loin en dessous de lui, s'enfonçant plus profondément à chaque minute, mais levant les yeux vers lui, à travers l'eau de plus en plus sombre. Il raconta à Julia la disparition de sa mère. Sans ouvrir les yeux, elle roula sur elle-même et s'installa dans une position plus confortable. « J'ai l'impression que tu étais un sale petit vaurien à cette époque, » dit-elle vaguement. « Tous les enfants sont des vauriens. »
« Oui, mais la vérité dans cette histoire... »
À entendre sa respiration, il était évident qu'elle allait se rendormir. Il aurait aimé continuer à parler de sa mère. Il ne pensait pas, pour autant qu'il pouvait s'en souvenir, qu'elle était une femme extraordinaire, et encore moins une femme intelligente. Et pourtant elle avait une sorte de noblesse, une sorte de pureté, simplement parce que les règles auxquelles elle se soumettait étaient des règles personnelles. Ses sentiments étaient les siens et ne pouvaient pas être modifiés de l'extérieur. Il ne lui serait pas venu à l'esprit qu'une action inefficace fût par la même sans signification. Si vous aimiez quelqu'un, vous l'aimiez, et si vous n'aviez rien d'autre à lui donner, vous pouviez toujours lui donner de l'amour. Quand le chocolat avait disparu, sa mère avait serré son enfant dans ses bras. Cela ne servait à rien. Cela ne changeait rien. Cela ne produisait pas plus de chocolat, ni n'empêchait la mort de l'enfant ou sa propre mort. Mais cela lui semblait naturel. La réfugiée dans le bateau avait aussi protégé le petit garçon de son bras, qui ne valait pas mieux contre les balles qu'une feuille de papier. Ce que le parti avait fait de terrible, c'était de vous persuader que la moindre impulsion, le moindre sentiment ne comptait pas, tandis que le parti vous privait en même temps de tout pouvoir sur le monde matériel. Une fois que vous étiez tombé dans ses griffes, ce que vous ressentiez ou ne ressentiez pas, ce que vous faisiez ou vous reteniez de faire, ne faisait littéralement aucune différence. Dans tous les cas, vous disparaissiez, et on n'entendait plus jamais parler ni de vous, ni de vos actions. Vous étiez tout simplement sorti du flux de l'histoire. Et pourtant, pour les gens de deux générations auparavant, cela n'aurait pas semblé aussi important, car eux n'essayaient pas de modifier l'histoire. Ils étaient mus par des loyautés personnelles qu'ils ne remettaient pas en doute. Ce qui comptait, c'était les relations individuelles, et un geste totalement désespéré, une étreinte, une larme, un mot adressé à un homme mourant, pouvaient avoir une valeur en eux-mêmes. Les prolétaires, se dit-il soudain, étaient restés dans cette condition. Ils n'étaient pas loyaux à un parti ou à un pays ou à une idée, ils étaient loyaux les uns envers les autres. Pour la première fois de sa vie, il ne méprisait pas les prolétaires. Il ne les envisageait pas comme une force inerte qui pourrait un jour renaître à la vie et régénérer le monde. Les prolétaires étaient restés humains. Ils ne s'étaient pas durcis à l'intérieur. Ils en étaient restés aux émotions primitives que lui devait réapprendre par un effort conscient. Et, en pensant à cela, il se souvint sans aucun rapport apparent que quelques semaines auparavant, il avait vu une main coupée sur le trottoir et l'avait poussée dans le caniveau comme si ça avait été un morceau de chou.
« Les prolétaires sont des êtres humains, »
dit-il à haute voix.
« Nous ne sommes pas humains. »
« Pourquoi pas ?» dit Julia, qui s'était éveillée à nouveau. Il réfléchit un instant.
« T'est-il déjà venu à l'esprit ?»
dit-il.
« Que la meilleure chose que nous puissions faire serait de sortir d'ici tout simplement avant qu'il ne soit trop tard et de ne plus jamais nous revoir. »«
Oui, mon chéri, plusieurs fois, mais je ne vais pas le faire de toute façon. »«
Nous avons eu de la chance, »
dit-il.
« Mais cela ne durera pas. Nous sommes jeunes, tu sembles normale et innocente. Si tu te tiens à l'écart de personnes comme moi, tu peux rester en vie pendant encore 50 ans. »«
Non, j'y ai réfléchi. Ce que tu fais, je le ferai. Et ne sois pas trop découragée. Je suis plutôt bonne pour rester en vie. »«
Nous pouvons rester ensemble pendant encore 6 mois, 1 an, on ne sait pas. Mais au final, nous sommes certains d'être séparés. » Est-ce que tu réalises à quel point nous serons seuls? Une fois qu'ils auront mis la main sur nous, nous ne pourrons plus rien faire, absolument plus rien, l'un pour l'autre. Si j'avoue, ils te tueront. Si je n'avoue pas, ils te tueront tout autant. Rien de ce que je pourrais faire ou dire, ou m'empêcher de dire, ne pourra te faire éviter la mort pendant plus de 5 minutes. Aucun de nous deux ne saura même si l'autre est vivant ou mort. Nous serons absolument dénués de tout pouvoir, quel qu'il soit. La seule chose qui compte, c'est que nous ne nous trahissions pas l'un l'autre, même si cela ne fera pas la moindre différence.
« Si tu parles d'aveux, dit-elle, nous en ferons, c'est sûr. Tout le monde fait des aveux, toujours. Tu ne peux pas l'éviter, il te torture. »
« Je ne parle pas d'aveux. Faire des aveux, ce n'est pas trahir. Ce que tu dis ou fais n'a pas d'importance, seuls les sentiments comptent. S'ils parviennent à faire en sorte que je cesse de t'aimer, ce serait cela la vraie trahison. »
Elle réfléchit. « Ils ne peuvent pas faire ça, dit-elle finalement. C'est la seule chose qu'ils ne peuvent pas faire. Ils peuvent te faire dire n'importe quoi, mais ils ne peuvent pas te forcer à y croire. Ils ne peuvent pas entrer à l'intérieur de toi. »
« Non,
dit-il avec un peu plus d'espoir.
Non, c'est tout à fait juste. Ils ne peuvent pas entrer en toi. Si tu ressens que cela vaut le coup de rester humain, même si cela ne peut pas avoir de résultat, alors tu les as battus. »
Il pensa à l'écrantelle et à son œil qui ne dormait jamais. Il pouvait espionner jour et nuit, mais en gardant son sang-froid, on pouvait les berner. Avec toute leur intelligence, ils n'avaient pas encore trouvé le secret qui permet de savoir ce que pense un autre être humain. Peut-être que ce n'était plus aussi vrai quand on tombait entre leurs mains. On ne savait pas ce qui se passait au ministère de l'amour, mais on pouvait le deviner. Torture, drogue, instruments délicats enregistrant les réactions nerveuses, affaiblissement progressif par manque de sommeil, solitude et interrogatoire sans fin. Les faits, en tout cas, ne pouvaient rester cachés. Ils pouvaient être découverts par des enquêtes, ils pouvaient vous être arrachés par la torture. Mais si le but n'était pas de rester vivant, mais de rester humain, quelle différence cela faisait-il au final ? Il ne pouvait changer les sentiments, car on ne pouvait même pas les changer soi-même, même si on le désirait. Il pouvait mettre à nu jusqu'au moindre détail tout ce que vous aviez dit ou fait ou pensé, mais le fond de votre cœur, dont les mécanismes étaient mystérieux même pour vous-même, restait inviolable.